20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, la mandoline à l'honneur ce soir dans le journal du classique avec notre invité Julien Martineau qui nous dévoilera à cette occasion une facette peu connue du répertoire beethovenien, de délicieux duos pour mandoline et piano. Thierry Ilerito du Figaro nous présentera ensuite la jeune soprano Amina Idriss qui s'apprête à chanter Manon à l'Opéra de Paris. Mais pour commencer, intéressons-nous à quelques autres temps forts de cette actualité musicale. Direction l'Auditorium de Lyon, tout d'abord, l'Auditorium de Lyon où l'Orchestre National de Lyon retrouvera jeudi et vendredi soir Nicolas Schneider, son directeur musical désigné, et cela avant de partir avec lui à la conquête du public russe et notamment du public du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. C'est avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet qu'ils partageront cette tournée russe. Jean-Yves Thibaudet qui sera donc également à leur côté cette semaine à Lyon pour jouer le concerto de Grieg. Également au programme de ses concerts, le prélude des maîtres chanteurs de Wagner et la première symphonie de Mahler. Laurence Equilbé poursuit son cycle Beethoven avec son Insula Orchestra et présentera ainsi cette semaine au Grand Théâtre de Provence à Aix, puis la semaine prochaine à la scène musicale, une nouvelle création scénique et même participative autour de la symphonie pastorale. Un spectacle intitulé Pastoral for the Planet, se présentant comme un singulier plaidoyer pour la préservation de la nature, associant musique et théâtre visuel. Alors c'est le collectif catalan La Fura del Baus qui signe cette mise en scène, la mise en scène de ce qui s'apparente à un véritable spectacle donc, une scénographie développée autour du thème de la forêt, nous invitant à prendre conscience de l'urgence, à retrouver une relation sereine avec notre environnement. Et autour de la symphonie pastorale, Laurence Equilbé dirigera d'autres pages de Beethoven, mais aussi de Reicha, de Ritz ou encore de Weber. Un spectacle qui se veut également interactif, puisque le spectateur pourra échanger avec le metteur en scène via son smartphone, grâce à une application mobile dédiée. Rendez-vous donc vendredi et samedi au Grand Théâtre de Provence, et puis les 26 et 27 février à la scène musicale. Les dernières notes de la 5e symphonie de Beethoven par Laurence Equilbé et son Insula Orchestra. Laurence Equilbé qui poursuit son cycle Beethoven avec la symphonie pastorale qui fera l'objet de tout un spectacle pastoral pour la planète, un spectacle à découvrir vendredi et samedi soir à Aix au Grand Théâtre de Provence, puis les 26 et 27 février à la scène musicale.
Laure Maison sur Radio Classique.
Cette année, Beethoven nous permet de découvrir les multiples facettes d'un compositeur dont on croyait tout connaître, mais qui se révèle beaucoup plus ouvert qu'on ne l'imaginait. C'est ainsi qu'il s'est intéressé aux cultures orientales, comme nous le racontera jeudi la pianiste Shani Di Luca, mais aussi à un instrument que l'on associe plus volontiers à Vivaldi et beaucoup moins à la musique germanique, il s'agit de la mandoline. C'est ce que nous révèle Julien Martineau, virtuose et ambassadeur on ne peut plus engagé de cet instrument, lui qui vient d'enregistrer de séduisants duos pour mandoline et piano, signés entre autres Beethoven, et cela en compagnie de la pianiste Vanessa Benelli-Moselle. Un album qui vient de paraître chez Naïve. Alors Julien Martineau est notre invité justement ce soir. Il nous éclaire sur ce répertoire méconnu de Beethoven.
Oui, ça fait partie des pièces que chaque mandoliniste connaît, parce que Beethoven ait écrit pour mandoline, c'est quand même exceptionnel. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est que ce ne soit pas plus connu du grand public. Et alors, là-dessus, j'ai plusieurs théories. Souvent, ce que je pense, c'est que ces pièces-là, qui sont des pièces, des miniatures, qui déjà évoquent le Beethoven un peu romantique, elles sont assez délicates à bien percevoir. En fait, elles ne sont pas très virtuoses en apparence, et souvent les mandolinistes préfèrent jouer des pièces qui mettent en valeur leur technique, leur panache, et donc du coup ça explique un peu cela. Mais moi j'adore ces pièces, ça fait très longtemps que je voulais les enregistrer. Voilà, la rencontre avec Vanessa Benelli-Moselle et l'année Beethoven, c'était un peu le moment idéal pour le faire.
Et comment est né chez Beethoven cet intérêt, cette fascination pour cet instrument, la mandoline, et l'idée de créer ce duo avec Biano?
C'est toujours un petit peu des circonstances humaines et du hasard. Beethoven avait un ami violoniste à l'Opéra de Vienne qui s'appelait Krumpholz, et Beethoven a pris quelques cours de violon avec lui au moment où il écrivait un trio pour perfectionner son écriture de cordes. Et Krumpholz jouait pour son plaisir de la mandoline. Il était l'un des meilleurs virtuoses de la mandoline, en même temps que violoniste. Et Beethoven lui a écrit quelques pièces, deux pièces, pour lui faire plaisir et qu'ils jouaient ensemble. Et ensuite, en fait, Beethoven est allé à Prague et a donné des cours à une jeune comtesse qui s'appelait Joséphine von Clary. Une belle Joséphine, puisque c'est comme ça qu'il a écrit en tête d'un de ses manuscrits pour la belle Joséphine, pour l'une des partitions. Et donc, il l'a rencontrée pour lui donner des leçons de musique. Et donc, il a composé deux pièces pour elle. Puis, la légende dit qu'elle s'est mariée et qu'ils ont cessé de se voir.
Donc, la mandoline était liée quelque part à un jeu de séduction de la part de Beethoven?
Un peu, sans doute. Thank you.
On découvre grâce à vous, Julien Martineau, ce duo assez rare mandoline-piano à travers ces délicieuses sonatines et autres variations de Beethoven que vous venez d'enregistrer avec Vanessa Benelli et Moselle. Est-ce que Beethoven était l'initiateur de ce genre, de ce duo mandoline-piano ?
Alors, c'est difficile à dire. Disons qu'en tout cas, ça vient vraiment d'une connivence au départ avec ce violoniste Krumpholz. Je pense vraiment qu'ils se sont très bien entendus avec violon, piano, et que comme Krumpholz avait ce petit péché mignon de la mandoline, ça s'est naturellement fait que Beethoven lui a dit « Tiens, voici cette couleur un peu originale ».
Mais est-ce que l'association de la mandoline et du piano est évidente? La mandoline est un instrument qui est assez intime, qui projette moins, enfin il me semble, c'est en tout vrai. Cas, que le piano. Comment fait-on pour trouver le bon équilibre avec son partenaire?
Alors, d'abord, l'équilibre n'est pas le même si on joue avec piano forte ou avec piano moderne. Avec piano forte, l'équilibre acoustique fonctionne parfaitement bien. Avec piano moderne, il faut évidemment avoir un partenaire qui sait jouer léger. Et puis ensuite, il y a tout un travail sur les timbres. Je me suis posé la question avec Vanessa, en fait, pour ce disque, de savoir si on utilise un piano forte ou un piano moderne, puisque Vanessa joue aussi du piano forte. Et puis, pour la couleur du son, on voulait quelque chose de plus rond, de plus velouté qu'avec un piano forte. Et donc, en fait, après, c'est un travail aussi pour la mandoline d'essayer d'avoir le son le plus doux possible, le plus suave possible. C'est vrai que c'est pas habituel et souvent les enregistrements de mandoline sont un peu secs. C'est toute la difficulté de l'instrument. Et donc, on a essayé, en fait, d'aller du côté du velouté et moins du côté du cuivré. Voilà.
On entend à travers ces pages de Beethoven quelques éléments typiques de la technique de la mandoline, notamment ce trémolo. Pourquoi est-ce caractéristique de la mandoline, le trémolo ?
Alors, le trémolo, c'est ce mode de jeu qui consiste à avoir un son pratiquement continu. En tout cas, quand on le fait bien, il ne faut pas qu'on entende des attaques en fait, sur la corde. On doit avoir l'impression que c'est lisse. Et la mandoline devient une sorte de petit violon avec la couleur, évidemment, corde pincée, mais ça permet d'avoir un vrai chant, en fait, une vraie respiration. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, des puristes disent, dans les pièces de Beethoven ou du 18e siècle, fin 18e, on n'utilise pas le trémolo, c'est pas bien. Et moi, sur l'une des variations, j'ai envie d'utiliser le trémolo, sur une sonatine aussi, parce que toute la magie de la mandoline, en fait, est dans le trémolo, pour peu qu'il soit doux et lisse. Et tout d'un coup, il y a un chant qui apparaît.
Donc c'est vous qui choisissez de jouer trémolo, ce n'est pas écrit sur la partition?
Ah non, il n'y a aucune indication sur la partition, il y a quelques nuances, et après je dirais que de toute façon le trémolo, même dans les pièces faites pour être trémolées,
on dit comme ça.
Oui, c'est le terme, voilà. Trémolo, ça veut dire tremblement, en fait. Mais à la mandoline, c'est pas un tremblement. C'est plus qu'un mode de jeu bizarre. C'est une seconde nature. Voilà. Soit on joue des sons qui sont dits détachés, finalement, qui vont tenir, comme à la guitare. Soit on utilise ce mode-là. Et très souvent, c'est à la liberté de l'interprète. Et toute la difficulté, c'est que ça ne s'entende pas. C'est-à-dire que quand on écoute la musique, on doit pas entendre si c'est trémolé ou pas. La règle, c'est qu'il faut que la mandoline chante. Voilà, c'est un instrument, enfin tous les instruments à cordes pincées, on sait très bien que c'est plus difficile à faire chanter que les instruments à archet ou à vent, qui ont une sorte d'inertie naturelle proche de la voix. Les instruments à cordes pincées sont plus nerveux. Donc tout le truc, c'est d'arriver à voir un phrasé finalement comme un chanteur. Et si on a réussi ça, peu importe après les choix de savoir où on veut utiliser le trémolo ou pas, l'important c'est que c'est réussi et on ne se pose pas de questions. Thank you.
Dans votre nouvel album que vous venez d'enregistrer avec Vanessa Benelli-Moselle, Julien Martineau, figure la musique de Beethoven, figure également celle de Johann Nepomuk Hummel, l'un de ses contemporains, qui a écrit une grande sonate pour mandoline et piano, qui fait partie des œuvres emblématiques de votre répertoire.
Oui, c'est l'une des plus importantes sonates de cette époque, c'est la plus longue. C'est une pièce extrêmement virtuose pour le piano. Alors, on en plaisante souvent avec Vanessa, parce que en présentant les concerts, elle dit « Mais cette sonate-là, cette grande sonate, c'est pour piano et mandoline obligée. » Mais elle n'a pas tout à fait tort, c'est-à-dire que c'est vraiment une sonate qui est très virtuose, très difficile pour le piano.
Et pas pour la mandoline ?
Pour la mandoline, c'est délicat, parce que ça tombe pas sous les doigts, mais ça, là encore, ça ne s'entend pas, c'est quelque chose... En fait, la mandoline dialogue, elle vient contrepointer le discours du piano. C'est une œuvre vraiment magnifique. Mais c'est une composition où le piano est roi. Et par contre, Hummel a aussi écrit un concerto pour mandoline qui est magnifique. Et là, la partie mandoline est vraiment très, très virtuose, on dirait de la dentelle, en fait.
Alors, figure également dans votre album une transcription d'une page de Fritz Kreisler, la transcription de l'Allegretto, de la 7e symphonie de Beethoven, puis une œuvre originale que vous avez enregistrée en première mondiale, composée pour vous par Corentin Appareilly, ce qui veut dire que les compositeurs d'aujourd'hui écrivent encore pour la mandoline, et vous avez même inspiré un concerto à Carole Beffa il y a 2 ans, que vous avez créé à Toulouse.
Oui, c'est ça.
Vous arrivez à susciter un intérêt des compositeurs.
Oui, parce que la mandoline, en fait, c'est un instrument qui est encore peu connu. Alors ça, c'est inconvénient, parce qu'il faut convaincre un peu plus. C'est pas comme le piano ou le violon, où c'est quand même un peu plus simple. Mais en même temps, comme c'est rare, une fois que la curiosité est là, eh bien, finalement, on peut toucher énormément de public, j'allais dire, mais aussi des compositeurs. Et je sais qu'avec Carole, on a beaucoup travaillé sur la mandoline, la technique de jeu. Pareil avec Corentin, et ça, c'est passionnant. Parce qu'on a l'impression, en fait, de faire vraiment avancer cet instrument. Moi, j'ai l'impression, en fait, que pour la mandoline, on vit une époque un peu bénite.
Vous êtes l'un des rares virtuoses connus, Julien Martineau, de cet instrument, la mandoline. Vous sentez que cet élan que vous avez initié il y a quelques années déjà pour cet instrument est en train de toucher de jeunes musiciens, que la mandoline est un instrument qui inspire de plus en plus les jeunes?
Je pense que la mandoline est un instrument en devenir, c'est certain. Par exemple, il y a une classe qui vient de s'ouvrir au conservatoire de Tarbes, par une de mes anciennes élèves au conservatoire de Toulouse. Et il y a des classes qui s'ouvrent petit à petit, et donc le niveau des mandolinistes est en train de progresser. Il y a une vingtaine d'années encore, il y avait très très peu de gens qui jouaient convenablement. Aujourd'hui, des gens qui jouent vraiment bien, il y en a beaucoup. Des gens qui jouent très bien, c'est encore un tout petit peu plus sélectif, mais je pense que dans 20 ou 30 ans, on parlera plus de la mandoline que du violon. Non, je plaisante, mais...
Oh ben, c'est vrai que la mandoline est un instrument que l'on a associé plutôt à une pratique amateur. C'est un instrument dont on avait souvent une image assez réduite, voire caricaturale. On a associé la mandoline au concerto de Vivaldi et point barre. Alors qu'il y a un répertoire à disposition et puis la possibilité d'une vraie vie professionnelle en tant que mandoliniste.
Oui, il y a une possibilité d'une vie professionnelle aboutie et extrêmement agréable. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'arrive à jouer un peu partout, je voyage beaucoup, et donc j'en suis très content. Mais c'est le premier barrage qui est difficile à franchir pour un mandoliniste, parce que c'est pas un instrument qui s'accompagne d'un grand prestige. Mais je crois que ensuite, c'est un instrument qui est très agréable, parce que justement, il n'y a pas énormément de concurrence. Enfin, il y a de la place pour tout le monde en mandoline qui jouerait bien.
Et il y a de quoi se satisfaire avec un répertoire suffisamment large, enfin que l'on peut élargir d'ailleurs.
Bien sûr, alors non seulement on l'élargit avec des créations, et puis il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui qui sont composées pour l'instrument sans être des œuvres de compositeurs connus. Par exemple, je pense qu'on peut dire que le grand magasin en Allemagne de partitions pour mandoline publie 100 d'œuvres par trimestre.
Ah oui.
Mais c'est surtout qu'on a un répertoire depuis Vivaldi qui est extrêmement large. On a des centaines de sonates du XVIIIe siècle, on a des dizaines de concertos napolitains du XVIIIe siècle. Et puis après, à partir de la fin du XIXe siècle, les Japonais se sont amusés à scanner, à numériser toutes les pièces écrites pour mandoline entre 1880 et 1940, en gros. Et on a plus de 8000 pièces numérisées. Donc, il y a vraiment du répertoire, sauf qu'il est peu connu.
Voilà, mais du répertoire très italien, ou est-ce que la mandoline, du coup, a pu inspirer des compositeurs à travers le monde, Julien Martineau ?
Alors, il y a des compositeurs à travers le monde entier, parce que c'est un instrument qui est présent partout. C'est lié à l'immigration. La mandoline, c'est un instrument qui accompagnait déjà toute la conquête des Amériques. Donc on en trouve au Brésil énormément. C'est un des instruments plus populaires du Brésil, au Venezuela. En Amérique du Nord, tous les immigrés italiens avaient ramené la mandoline. Et ensuite, la mandoline s'est intégrée dans le bluegrass, donc le genre traditionnel américain. Quand on va en Russie, il y a la domra, la balalaïka. Ils jouent tous de la mandoline également. Donc voilà, c'est un instrument qu'on trouve absolument partout. La seule chose, en fait, c'est que ça reste un instrument auquel il faut faire gravir les échelons et la rendre présente dans des grands festivals, jouer avec des orchestres. Voilà, moi, c'est ça que je trouve passionnant.
Et c'est ce que vous faites, justement, Julien Martineau, puisque vous jouez avec de grands orchestres, vous jouez à travers le monde, vous serez prochainement en tournée en Chine, vous irez jouer également en Afrique, c'est ça ?
Oui, en Afrique.
Voilà.
Et puis, en Guinée équatoriale.
Voilà. Et plus proche de nous, en France, puisqu'on pourra vous entendre le 2 mars à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines à Toulouse, avec Vanessa Benelli-Moselle. Vous jouerez le programme de cet enregistrement.
Oui, exactement. Plus quelques autres pièces, notamment une sonate de Scarlatti.
Voilà, puis d'autres rendez-vous. Vous serez également au mois de mai à Bordeaux avec le pianiste David Bismuth et on pourra vous entendre en solo à Albi, à Toulouse, à Montpellier cet été et dans différents festivals puisque vous ferez la tournée des festivals au beau jour. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci Laure.
Un adagio pour mandoline et piano de Beethoven, un nouvel extrait de cet album qui réunit Julien Martineau et Vanessa Benelli-Moselle, un album qui vient de paraître chez Naïve. Julien Martineau et Vanessa Benelli-Moselle qui seront, je vous le rappelle, en concert le 2 mars à Toulouse, à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, autour de ce rare répertoire pour mandoline et piano.
Nouvelle génération de Thierry Hilériteau avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, vous nous parlez d'une jeune chanteuse qui va faire, dans une semaine, ses débuts à l'Opéra de Paris.
En effet, son nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, et pourtant, Amina Idriss est sans doute l'une des sopranos les plus prometteuses de sa génération. Le public de l'Opéra de Bordeaux a pu la découvrir au printemps dernier. Elle chantait Manon dans la production d'Olivier Py. Au départ, elle ne devait faire partie que de la deuxième distribution, mais Nadine Serra, avec qui elle chantait le rôle en alternance ayant été souffrante, elle avait fini par la remplacer, ce qui lui avait valu notamment de se produire aux côtés de Benjamin Bernheim, le ténor français qui monte.
Benjamin Bernheim, que l'on retrouve de nouveau en Desgrieux, cette fois à l'Opéra de Paris, et c'est à partir du 29 février.
Oui, et devinez qui sera Manon dans le cast B de cette nouvelle production signée Vincent Huguet. Eh bien, je vous le donne en mille, Amina Idriss. La jeune femme jouera le rôle en alternance avec Pretty Yende, sauf imprévu, elle ne devrait donc pas cette fois croiser Bernheim sur scène. Mais les deux se sont évidemment retrouvés aux répétitions. Une vraie surprise, car Idriss n'était absolument pas prévue au départ. Elle aurait dû chanter en ce moment Susanna dans les Noces de Figaro à l'opéra de Hawaï, figurez-vous. Mais on a appris il y a seulement une semaine qu'elle remplacerait finalement la russe Sofia Fomina, qui a préféré se retirer du spectacle pour raisons personnelles. Un jeu de chaise musicale qui pourrait lui être des plus favorables et sera surtout l'occasion pour le public parisien de découvrir cette étoile montante du lyrique, fruit du multiculturalisme et preuve flagrante que l'opéra est aujourd'hui un art plus que jamais mondialisé.
Les chanteurs d'opéra ne sont-ils pas tous un peu citoyens du monde ?
Vous avez raison Laure, mais Amina Idriss est de celles qui peuvent revendiquer ce titre mieux que personne. Elle est née au Caire, en Égypte, en 1985. Alors ses parents ne sont absolument pas musiciens, mais la famille n'est pas totalement étrangère à cet art. Et pour cause, son oncle est plutôt versé dans les musiques traditionnelles, il joue du luth, des percussions égyptiennes. Sa tante, elle, pratique le violon et le piano. Ce sont donc eux qui lui mettront le pied à l'étrier dès son plus jeune âge, en lui apprenant le chant et le piano. Elle n'est qu'adolescente lorsque la famille émigre en Nouvelle-Zélande. Cette fois, un choc des cultures, y compris musicales. Là-bas, Amina se familiarise avec le chant choral au lycée, intègre un quatuor vocal et se met même au trombone pour les besoins de l'orchestre de l'école. Elle y jouera tous les styles de musique, 5 années durant. Et puis, au sortir du lycée, bien sous la pression parentale, la jeune femme commence des études d'ingénieur, mais elle sait que sa vie est ailleurs. En catimini, elle passe donc l'audition pour rejoindre la section musique de l'université de Canterbury, sur l'île du Sud. Elle est admise, le plus dur reste à venir, convaincre ses parents. Elle y parviendra tant bien que mal, avec un peu d'aide, il faut bien le dire, de son oncle et de sa tante. Et c'est là-bas, en Nouvelle-Zélande, grâce au programme Pacific Opera, qui propose des masterclass à destination des jeunes talents, qu'elle fera la connaissance de son futur mari, le ténor néo-zélandais d'origine polynésienne, Pene Pati. C'est aussi là-bas qu'elle rencontrera les responsables du programme Merola de l'Opéra de San Francisco, un stage d'été intensif pour jeunes chanteurs. Elle intégrera grâce à cela, comme son mari d'ailleurs, la résidence pour jeunes artistes de la prestigieuse maison lyrique américaine. Ce sera le début d'une carrière internationale qui l'amènera de San Francisco à Washington, en passant par l'Australie où elle remporte plusieurs prix dont le concours de bel canto John Sutherland. Avant ses débuts européens à Bordeaux, en avril dernier, donc, depuis, la soprano n'est pas restée inactive sur notre continent. On l'a vu à Genève dans les Indes galantes de Rameau, sous la baguette de Leonardo Garcia Alarcón. Elle sera l'hiver prochain de retour en Californie pour le rôle de Musette dans La Bohème, mais pour l'heure, eh bien, c'est bien à Paris dans le rôle de Manon, et qui plus est, dans l'une des productions les plus attendues de la saison, qu'on la retrouve. L'heure exquise de Reynaldo Hahn, chantée par Amina Idriss. Amina Idriss, que l'on pourra découvrir dans le rôle de Manon à l'Opéra de Paris. Un rôle qu'elle chantera en alternance avec Pretty Yende. Et c'est à partir du 29 février. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait. Merci,
de cette jeune soprano. À noter que nous ferons connaissance avec une autre jeune chanteuse que l'on commence à connaître un peu, Angélique Boudeville, qui elle est originaire de Polynésie, puisqu'elle sera avec nous jeudi dans le journal du classique. Et demain, c'est Shani Di Luca qui sera notre invitée. Merci beaucoup à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel.